Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être encore à l'écoute de Mélomanie. Bienvenue aux fidèles de cette émission et à tous ceux qui découvrent pour la première fois le magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. L'année touche à sa fin, mais la trêve dite des confiseurs ne concerne pas les salles de concert. Enfin, pas toutes, fort heureusement. Il reste quelques événements musicaux d'ici le 31 décembre. Nous allons en parler plus tard dans ce numéro, après que nous aurons évoqué ceux qui ont fait l'actualité de la semaine passée. Deux mélomaniacs sont au rendez-vous pour m'y aider et échanger avec moi. Tout d'abord, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. À ses côtés, il était là pour le numéro précédent de Mélomanie et il est encore aujourd'hui, Hubert Stocklin, contributeur des sites classicnews.com et Culture 31. Bienvenue aussi à tous les deux et merci d'avoir répondu à mon invitation. Sans plus attendre, nous allons nous attaquer à la première rubrique de cette émission, celle consacrée aux concerts auxquels nous avons assisté la semaine dernière.
Mélomanie, retour arrière.
Et la semaine dernière, il y avait, chose rare, un concert conjoint de l'Orchestre National du Capitole et du Chœur du Capitole à la Halle aux Grains, vendredi. Ces deux formations ne se croisent en général qu'à l'occasion des opéras qui sont donnés au Théâtre du Capitole. C'était donc un petit événement que de les voir réunis lors de cette soirée, où l'ensemble symphonique toulousain était dirigé par le jeune chef italien Giacomo Sagripanti. Le programme était intitulé « Bel canto et sacré ». Pourquoi ce titre? Eh bien parce qu'ont été joués la symphonie en ré majeur de Cherubini et surtout le Stabat Mater de Rossini, deux œuvres et deux compositeurs qui expliquent aussi la présence d'un chef italien. Anne-Marie Chouchan, Hubert Stocklin, vous avez tous les deux assisté à ce concert un peu singulier parce que je ne pense pas qu'on entende très souvent ces deux œuvres en concert. Et d'ailleurs, est-ce que vous aviez déjà entendu tous les deux précédemment à Toulouse?
Le Stabat Mater de Rossini, je crois, mais je ne sais pas quand. Il y a fort longtemps. Et je ne crois pas par l'Orchestre du Capitole dans ces conditions avec le Chœur du Capitole. Pour l'Orchestre du Capitole et le Chœur du Capitole, c'était pas tout à fait une première puisqu'ils ont déjà collaboré. Et j'en suis sûr que dans l'avenir, ils comptent bien produire ensemble des concerts parce que le Chœur du Capitole est un grand chœur professionnel qui, c'est vrai, chante de l'opéra mais qui aussi peut s'exprimer en concert. Là, en l'occurrence, le Stabat Mater de Rossini est une œuvre de musique sacrée mais qui a aussi un côté très opératique. Donc, c'était une façon de mêler les deux. Et puis c'est vrai que les compositeurs italiens du 19e siècle ont su aussi composer beaucoup d'opéras, mais aussi des œuvres de musique sacrée qui sont à la fois très belles et qui n'ont rien à envier à celles d'autres compositeurs. Donc je crois que ce Stabat Mater de Rossini, il a des côtés opératiques, il a quatre solistes qui chantent des airs qui ressemblent à des airs d'opéra, mais en même temps il a des moments de très grande ferveur qui sont confiés au chœur et qui ont été interprétés par le Chœur du Capitole de façon superbe. Ce chœur qui s'avère d'année en année également très souple, capable de beaucoup de nuances, très homogène sur le plan de la qualité technique et du son. Donc c'était très très beau et je crois que le public a rappelé au moins pendant, je ne sais pas, plus de 5 à 10 minutes. Donc c'était un gros succès et une très belle œuvre qu'on a eu plaisir à entendre.
Vous, Hubert, c'était une première pour vous,
le Stabat Mater? Je le connaissais bien par le disque, en fait, par des airs qui sont justement inclus dans les récitals d'opéra. Donc la première fois que j'en ai entendu un air, c'était le Facut Portem par des mezzo-sopranos. Et après, bien sûr, l'air de ténor aussi est très connu. Et donc, au disque, j'ai une version dirigée par Muti que j'adore, qui est pleine de vie. Et j'étais très très content de venir écouter finalement ce qui fait la richesse de notre Théâtre du Capitole. C'est un orchestre symphonique qui tient haut le pavé, disons, mondialement. Et puis le Chœur du Capitole, moi qui vais un peu dans d'autres maisons d'opéra, est vraiment un chœur d'opéra nettement au-dessus de ce qu'on entend ailleurs. Et je pèse mes mots parce que souvent les maisons d'opéra, en particulier en Italie, ont des chœurs qui chantent fort et très fort même. Là, on a un travail qui a été fait par Alfonso Cajani, qui est un travail depuis maintenant, je crois, une bonne dizaine d'années. Tout en finesse, on a un chœur capable de choses très très fines, même à l'opéra. La dernière production de La Rondine, c'était merveilleux ce qui s'était passé sur scène. Et donc finalement, c'est pas vraiment un étonnement, hein. Je m'y attendais. J'espérais que ce serait un événement lyrique, parce que le Théâtre du Capitole, avec un orchestre et un chœur pareil, peut se prétendre à ce qu'il y a de meilleur. Et le public a été vraiment gâté. Parce qu'il y avait en plus quatre solistes, des vraies voix d'opéra, chacun très timbré. La soprano était corsée avec un beau métal qui passait dans les. Parce qu'il y a des fortissimi incroyables, hein. Elle doit tenir. Enfin, le chœur lui tient la trajet haute, hein. Et c'est une vraie Madonna, donc elle a joué son rôle. Peut-être un peu plus extraverti après dans son air, mais bon, c'est le but du jeu. Le ténor aussi, il faisait vraiment le ténor qui chante ténor italien. Mais la mezzo était vraiment très très émouvante. La basse a un rôle plus pondéré, je crois. En tout cas, leur quatuor vocal dans les a cappella était magnifique. On s'est régalé. Le chœur, à la fin, il y a eu une espèce de montée, de ferveur, de puissance, de révolte dans ce Stabat Mater qui était merveilleux. Parce que peut-être il faut parler de ce que c'est que ce Stabat Mater. On dit Stabat Mater, mais bon.
Oui, justement.
Attention.
Justement.
Dans cette période de Noël, c'est intéressant.
J'allais y venir. Alors, il y a plusieurs, d'ailleurs, points d'entrée possibles. D'abord, le Stabat Mater de Rossini par rapport au reste de son œuvre. Évidemment, on connaît essentiellement ses opéras. Ceux qui connaissent Rossini savent qu'il s'arrête en 1830. Les opéras, c'est terminé. Il y en a eu beaucoup avant. Et puis donc il va tout de même continuer à composer. Il est à Paris, comme Cherubini d'ailleurs dont nous allons parler dans quelques instants, Cherubini un peu avant lui. Et puis donc il y a de la musique orchestrale et il y a de la musique sacrée. Donc dedans il y a ce Stabat Mater. Il y en a des dizaines de Stabat Mater qui ont été composés depuis le Moyen Âge et la Renaissance, de Josquin des Prés jusqu'à plus récemment.
Il y a le Pergolèse qui est très très connu.
Alors les plus connus sont souvent italiens, le Pergolèse effectivement et le Vivaldi. Mais il y en a d'autres, Scarlatti aussi en a composé un, Haydn, Boccherini pour revenir en Italie, Dvorak, un très beau Stabat Mater aussi, Dvorak, Poulenc pour parler des Français. Alors, ce Stabat Mater de Rossini, vous le mettez à quel niveau par rapport à d'autres Stabat Mater?
Moi, il est unique parce qu'à la fois, il fait un pied de nez et il sait être très respectueux du texte. Parce que ce texte est en fait assez abominable.
Le texte
du Stabat Mater est une façon assez... Il y a le premier degré, cette vision épouvantable d'une mère qui perd son enfant. C'est la chose la plus horrible au monde parce que c'est contre les lois de la nature. Enfin, c'est quelque chose qui... Un parent ne doit pas perdre son enfant, c'est pas possible. Donc, chacun est touché par cette question qu'il y a des enfants ou qu'il connaît des enfants. Mais le Stabat Mater est plus extraordinaire que ça, c'est de récupérer cette douleur pour après, à son propre compte, accéder à la résurrection. Donc il y a un côté quand même très 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 moderne, je trouve, de récupérer la douleur, regarder et déployer, mais pour son propre profit. Et je trouve que Rossini, il y va comme ça. On va faire un opéra. D'ailleurs, il ne l'a pas fait pour être joué dans une église, mais pour un théâtre. Il a fait deux versions, mais toujours pour le théâtre. Et il se dit, on y va. Et après tout, on a le droit à la fin. Alors, je trouvais qu'il y avait un mélange de ferveur et de colère à la fin, parce que c'est Sempiternam et ses amens qui sont fortissimo. Enfin, c'est un final grandiose. Hein. Et je trouve que c'est une façon de, à la fois, respecter le sens du Stabat Mater, mais peut-être au second degré, et avec beaucoup d'humour, parce que Rossini était dans une période de vie, à la fin de sa vie, où il a su être un rentier, invité des meilleurs salons parisiens, un gourmet qui a inventé le fameux tourneau de Rossini.
On lui prête en tout cas l'invention.
Enfin, en tout cas, on sait qu'il mangeait beaucoup. Les gravures le montrent très en embonpoint, très...
Oui, prononcé.
Très, très, très prononcé. Et donc, il faisait ce qui lui plaisait, donc de la musique sacrée, mais à sa façon... Et des tas de petites pièces, des mélodies, pièces qui lui permettaient de briller dans les salons. C'est peut-être le compositeur de musique qui a eu la plus belle vie.
Et longue en plus, longue et belle vie. Mort à Paris en 1868. Alors, on va parler tout de même de l'autre œuvre et de l'autre compositeur qui était joué dans ce concert, parce que le Stabat Mater de Rossini prenait toute la place. Mais donc, Cherubini, quelle œuvre a été jouée d'abord de Cherubini?
Symphonie en Ré, je crois.
Tout à fait.
Alors, Cherubini, je trouve qu'on fonctionne un peu par image d'Épinal, mais Cherubini, c'est le grand ennemi de Berlioz, parce que Berlioz voulait aller accéder à la bibliothèque de musique et Cherubini était le directeur du conservatoire. Et en fait, Cherubini représente un musicien d'avant la Révolution française qui a maintenu son poste et qui a ouvert le premier conservatoire. Donc, la chose la plus fermée et la plus fonctionnaire. Il a inventé le fonctionnariat musical, j'ose le dire. Voilà. Et donc, il formait les autres musiciens, mais lui-même, c'était brillant comme composition, mais à mon avis, aucun génie. C'est là où on est en difficulté avec des symphonies entre Mozart et Haydn d'un côté, qui ont quand même apporté la symphonie classique à un niveau d'invention, de profondeur inouïe. Beethoven, ensuite, qui fait exploser le moule, et lui, il est au milieu. Ben, voilà, c'était très agréable. Et l'orchestre, je dois dire, n'a pas été à la hauteur complètement, dans le sens où il n'y a pas eu vraiment ni le chef d'interprétation, très prudent dans sa battue, il s'est très peu servi de la main gauche, je ne sais pas ce qui s'est passé, il comptait un peu les temps, et ben nous, voilà, le temps passé, on attendait le Stabat, enfin voilà, c'est mon idée sur Cherubini.
Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie?
Je suis assez d'accord avec ce que dit Hubert. Cette interprétation de cette symphonie, c'est vrai que l'on ne connaissait pas. Cherubini, on le connaît surtout par l'opéra. Bon, là, c'est l'inverse. Cette symphonie, elle est classique, entre guillemets, sans éclat particulier. Et que le chef, en l'occurrence, bon, c'est un chef pourtant dont on parle beaucoup actuellement, n'a pas, peut-être aussi que c'est l'œuvre, mais
on
n'a pas
inspiré
en relief.
L'orchestre ne la connaissait peut-être pas très bien non plus, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose, une prudence. On aimerait peut-être pour des œuvres qui ne sont pas géniales, justement, des audaces d'interprétation. Mais bon, après tout, c'était peut-être une mise en bouche.
C'était un encas, apparemment.
Peut-être aussi que de révéler cette œuvre comme petite mise en bouche, c'était une façon surtout de faire un clin d'œil à l'Italie du XIXe siècle, qui finalement a donné beaucoup d'opéras, et surtout connue
à la France.
Et que finalement, il y a des œuvres comme cette symphonie qui sont complètement ignorer. Bon, c'est peut-être ce clin d'œil. Dire que ça laissera un souvenir impérissable, je suis assez d'accord, mais enfin, pourquoi pas, puisque toute l'histoire de la musique est faite aussi d'œuvres qui ne sont pas forcément si impérissables, parce que personnellement, les 104 symphonies de Haydn, personne ne connaît vraiment à fond, etc.
Il y a des spécialistes qui les connaissent toutes.
Oui, mais bon. Il faut vraiment être spécialiste pour se dire qu'à chaque note, il y a
des choses. Génie,
une invention à chaque fois.
Oui, bon, c'est vrai qu'il en est ainsi que de l'histoire de la musique.
C'est quand même moins inventif que Haydn. Hein. Reconnaissons-le.
Certainement.
Peut-être que Haydn, on peut trouver que ça fait beaucoup, mais il y a quand même une façon de faire la musique symphonique de Haydn qui est pleine d'inventions. Et il n'y avait pas ça chez Chopin. Tout était évidemment déjà entendu. Il n'y avait rien, aucune surprise jamais, ni dans la façon d'orchestrer, ni dans la façon d'organiser les mouvements les uns par rapport aux autres. C'était agréable, mais presque pour un repas, quoi.
Quelque chose qui relève plus de la fabrication, je vous comprends bien. Ah. Bon, alors, heureusement qu'il y avait le Stabat Mater de Rossini.
Ah, alors là, par contre.
Et on va en écouter un extrait. Vous avez évoqué tout à l'heure le Amen, final.
Ah oui.
Magnifique.
Alors, ça.
C'est ce qu'on va écouter. Et vous avez évoqué la version de Riccardo Muti. Eh bien, nous allons écouter la version de Riccardo Muti, le Stabat Mater de Rossini. Amen. Amen in sempiterna secula, finale du Stabat Mater de Gioachino Rossini, une version dirigée par Riccardo Muti, qui, je le précise au passage, dirigera le concert du jour de l'an à Vienne, et ce, je crois, pour la 5e fois, un concert que vous pourrez suivre en direct, comme chaque année, sur France Télévisions. Mais nous revenons maintenant dans la région toulousaine, où avaient lieu le week-end dernier les deux concerts que l'ensemble baroque a donné à l'église Saint-Jérôme de Toulouse le samedi, puis à l'église de Portières-sur-Garonne le dimanche. Nous avions largement évoqué ces concerts et leur programme avec Michel Brun, le directeur de l'ensemble baroque de Toulouse, qui était notre invité lors du dernier numéro de Mélomanie. J'ai assisté au concert de samedi à Saint-Jérôme, vous aussi Hubert Stocklin, même si l'accès à l'église a été quelque peu sportif, l'ensemble baroque ayant été victime de son succès avec une longue file d'attente à l'entrée et une salle archi-comble. Le concert a commencé avec un peu de retard, mais il a bien eu lieu. Au programme, il y avait des airs d'opéra de Vivaldi, le concerto pour flûte à bec et traverso de Telemann et la messe de minuit H9 de Charpentier, une balade dans les répertoires baroques italiens, allemands et français. Alors Hubert, vous suivez l'ensemble baroque depuis des années. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert et de ceux qui l'ont interprété, que ce soit les solistes ou l'orchestre lui-même ?
Ah bah écoutez, d'abord la file d'attente. Le fameux festival Passe ton bac d'abord, que Michel Brun a mis en place, où on fait la queue partout dans Toulouse. Enfin, il y avait un petit clin d'œil. Seulement, le gros problème, c'est que Passe ton bac, c'est en juin, et là, nous étions en décembre, par une pluvieuse soirée.
Et fraîche.
Et il faisait très très froid. Donc, le succès, et c'était très marrant, parce qu'il y avait une espèce d'angoisse sur le visage de ceux qui attendaient, qui se disaient, est-ce qu'on va y arriver à rentrer ou pas ? qui était perçu par les passants et qui s'arrêtait. Et je vais raconter juste trois petites remarques qu'on m'a faites. C'est « Mon Dieu, mais il se passe encore quelque chose par rapport à la mort de Johnny ?» Ben non, c'est pas Johnny, c'est l'orchestre Baroque de
Toulouse. C'est Baroque, c'était Baroque.
Et alors après, quelqu'un qui demande « Mais y a une cérémonie religieuse pour Noël ?» Non, c'est l'orchestre Baroque de Toulouse qui donne une messe de Noël. Et puis ensuite, c'était « Mais pourquoi vous faites la queue comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ?» Ben voilà. Donc le Baroque est à la mode à Toulouse grâce à Michel Brun et à son ensemble Baroque de Toulouse.
Vous avez raison, le clin d'œil, c'était une entrée baroque and roll, effectivement.
Voilà, baroque and roll.
C'était baroque and roll, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais bon, le concert, tout de même.
Donc, le concert dans cette magnifique église baroque, justement, il n'y en a pas beaucoup, des belles églises comme ça, avec cette fantaisie baroque à Toulouse. Elle était annoncée comme étant pas chauffée, c'était supportable, on va dire. Mais par contre, quel concert ! Quel concert ! Avec une espèce de patchwork, des airs d'opéra italien de Vivaldi pour voix de mezzo avec Caroline Champy en première partie, qui a été mais magnifique.
Ah, elle est formidable.
Je la connais bien pour l'avoir entendue, mais jamais je ne l'ai vue avec cette fièvre dramatique. Elle a osé, je ne sais pas, quelque chose s'est passé. Elle a osé. L'orchestre dirigé par Michel Brun était un tout petit orchestre. Il y avait deux violons alto. Enfin, c'était tout petit. Ils étaient en osmose. Il y a eu un drame qui s'est joué en trois scènes, quoi. Qui
était trois hallucinant.
Une petite symphonia du Saint-Sépulcre. Enfin, je ne sais plus très bien.
C'est ça, oui.
C'est Saint-Sépulcre, un drame incroyable. En tout cas, Caroline Champy, qui chante dans les éléments. Je crois que c'est qu'elle a fait du théâtre aussi.
Qu'elle a fait du théâtre.
Oui, oui. En tout cas, là, on a eu droit à quelque chose d'incroyable. La voix magnifique, mordorée, se s'est déployée. Elle est allée jusqu'à ébaucher des cris dans sa douleur, des tris, des vocalises. Enfin, c'était merveilleux.
Elle vit vraiment ce qu'elle chante.
Ah, mais ça, c'était une magnifique artiste dramatique ce soir. Vraiment, ça, je trouve.
Après, c'était la première partie.
Après, il y avait un concerto donc, de traverso, la flûte baroque et de flûte à bec. Michel Brun joue magnifiquement. Il y avait une harmonie entre ces deux instruments extraordinaires.
Flûte à bec tenue par Stéphanie Settolo.
Voilà, un instrument en bois. Quelque chose qui était très juste. J'ai beaucoup apprécié le fait que... Et l'orchestre était étoffé, il y avait plus de monde. C'était une féerie de couleurs, de nuances, de rythmes. Enfin, c'était merveilleux.
Et puis, l'œuvre qui a terminé donc, ce concert, la messe de minuit de Charpentier, que j'ai découverte en concert, en tout cas, cette occasion.
Écoutez, je crois qu'on était très heureux de voir arriver le chœur, parce qu'on ne l'avait pas entendu jusque-là, qu'il faut rendre hommage à un travail très très beau fait par l'ensemble baroque de Toulouse au niveau du chœur. Mais je ne crois pas que cette œuvre met en valeur vraiment ni l'orchestre ni le chef. Je crois que Charpentier, c'est très fragile. C'est construit par une succession de petits ensembles à deux voix, à trois voix, de chœurs, de récitatifs, des pièces d'orgue qui ont été un peu longues à mon goût. Il y a vraiment un espèce de patchwork là qui n'a pas été tissé dans une continuité dramatique parce que c'est trop compliqué. Je crois que c'est une œuvre qui n'est...
Est-ce qu'elle s'y prête ?
Je crois qu'elle ne se prête pas.
Ouais, justement.
Je me demande si... Je n'ai pas fait de recherche, mais je crois qu'elle a été vraiment prévue pour être dans une messe avec des moments religieux autour et des textes. Parce que je ne vois pas comment on peut... J'en connais une version au disque qui a le même défaut. C'est des morceaux qui s'accumulent. Il n'y a pas eu de continuité. Alors, il y a de très beaux moments. Le chœur a été très beau, homogène, beaucoup de couleurs. C'était très présent. La diction à la française aussi. Le texte latin francisé était bien amené. Mais peut-être on était parti trop haut. Peut-être que Vivaldi et Telemann ont mis la barre très très haut. Et j'ai trouvé qu'il y avait de très très beaux moments dans cette messe, mais il n'y a pas eu la construction que j'attendais. Il y a peut-être aussi... mon problème, c'est que j'associe vraiment Michel Brun à Bach. Il comprend Bach extraordinairement bien. Je ne veux pas dire ça serait désagréable de dire ça, mais Charpentier, ce n'est pas Bach, quoi. Et il y avait quelque chose qui n'était pas au même niveau de... Vraiment, Telemann, c'était magnifique. Vivaldi aussi. Charpentier, c'est plus fragile.
Mais peut-être que l'œuvre n'était pas au niveau des autres aussi, comme vous l'avez dit.
Je ne peux pas le dire comme ça, mais il y a du génie chez Charpentier. Hein, des petits moments de grâce. Il y avait deux sopranos merveilleux. Il y a des moments de grâce, mais...
Dans la continuité.
Je ne sais pas si la continuité dramatique était vraiment... je ne sais pas si on peut la mettre, d'ailleurs. C'est assez étonnant.
Alors, ce qui est aussi très agréable, c'est les présentations de chaque œuvre par Michel Brun. Remarquablement.
Depuis Cantate en filet, on sait la qualité qu'il a pour présenter la musique, parfois dans des choses très compliquées, très simplement. C'était très, très agréable, vraiment. Un grand moment. Un grand moment pour l'Orchestre Baroque de Toulouse. Mais l'église était pleine.
Ah,
on a rajouté des chaises. Il fallait se battre pour qu'on n'en ait pas dans l'allée qui bouche la vue. Enfin, c'était extraordinaire.
Et ils ont rejoué le lendemain le même programme.
Ah, oui.
À l'église de Portier-sur-Garonne, et c'était archi complet aussi.
Ah bah, voilà, donc, nous allons
Paris gagné,
prendre rendez-vous pour les autres années, j'espère.
Voilà, c'est un peu ce que nous avons dit
Michel grandes.
Brun, si ouais. ça a fonctionné, et ça a fonctionné, eh bien, il espère évidemment prolonger l'expérience pour des concerts de Noël l'année prochaine, mais aussi et surtout peut-être pour une vraie saison dans divers lieux de l'agglomération toulousaine.
Le public est là. Hein,
oui, je pense qu'ils ont un public fidèle depuis Pastonbach. Eh bien, nous terminons la première partie de cette émission avec ces concerts de l'ensemble baroque de Toulouse. On va faire une petite pause d'une minute avant de se retrouver. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Suite et seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Hubert Stocklin, contributeur des sites classicnews.com et Culture 31.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda musical de la semaine est l'actualité immédiate puisque la première a eu lieu jeudi. Ils vont nous donner l'occasion d'aborder un nouveau genre dans cette émission. Mais rassurez-vous, il s'agit bien entre autres de musique. Casse-noisette, le ballet de Tchaïkovski, est donné au Théâtre du Capitole jusqu'au 31 décembre dans une chorégraphie mise en scène de Kader Belherbi. Sur le plateau, le ballet du Capitole. Dans la fosse, l'orchestre du Capitole dirigé pour l'occasion par Koenz Kessels. Et puis la maîtrise du Capitole d'Alfonso Cagliani assure les chœurs. On est donc en famille, celle du Capitole, pour interpréter cette œuvre très célèbre. Et on peut y aller aussi en famille pour découvrir cette production. Pour l'instant, aucun d'entre nous n'a pu assister ni à la première ni à la générale de cette œuvre. En revanche, on peut peut-être parler évidemment de la partition de Tchaïkovski que tout le monde connaît. Vous qui aimez, qui connaissez Tchaïkovski, on aime beaucoup ses symphonies qu'on entend souvent jouer par l'Orchestre National du Capitole. Casse-noisette, cette musique pour vous, est-ce que c'est dans son œuvre quelque chose que vous mettez très haut ou comme lui-même, à la fin de sa vie, vous savez, il avait ses périodes dépressives et même suicidaires. Quand il se retournait sur Casse-noisette, il se désolait d'avoir pu composer ce qu'il appelait une montagne de confiture. Alors, est-ce que c'est une montagne de confiture, Casse-noisette?
Ah, mais moi, j'adore la confiture. J'adore la confiture. Il y a des confitures variées.
Et de plus ou moins bonne qualité.
Qu'est-ce qu'il y a comme comparaison avec une confiture de groseille ou de fraise ou de pêche ou de marron? Donc, en fait, oui, c'est quelque chose de délicieux. Casse-noisette, c'est délicieux. C'est l'œuvre, par définition, pour Noël. Ça se passe dans une nuit de Noël. Et c'est vraiment, je suis désolé de contrarier Tchaïkovski, c'est peut-être son plus beau ballet, dans le sens de l'inventivité. Parce qu'il y a ce fameux Glockenspiel qui joue. Enfin, il y a des petites cloches, là. C'est en fait un piano. C'est extraordinaire, il y a du rythme, des rythmes endiablés,
bah,
il y a une
danse,
grande
là,
valse. C'est sûr que c'est un peu une collection de danses, mais là il y a une continuité dramatique. Voilà, je disais tout à l'heure que parfois il n'y a pas de continuité dramatique. Dans Tchaïkovski et dans Casse-noisette, il n'y a pas vraiment une histoire. Hein. C'est un jouet qui est offert à une petite fille qui prend vie et qui va...
Enfin, un jouet, c'est un casse-noisette.
C'est un casse-noisette, donc un jouet en forme de casse-noisette.
Bah, vous rappelez pour les gens qui ne savent peut-être pas que c'est tiré d'un conte d'Hoffmann qui s'appelle Casse-noisette et le roi des souris. C'est une nuit de réveillon, une petite fille qui attend son cadeau. Le cadeau, c'est un casse-noisette. Et puis dans la nuit, il se passe, je vous laisse raconter la suite.
Tout s'anime.
Tout s'anime.
Enfin, peut-être Anne-Marie, vous...
Anne-Marie, oui, rappelez-vous la petite fille que vous étiez à qui on racontait Casse-noisette.
Non, à l'époque, on ne me racontait pas Casse-noisette, vraiment, parce que j'habitais dans une petite ville où on avait tout de même le handicap de ne pas avoir de scène d'opéra et que, bon, on était moins touchés peut-être aussi par ce type de spectacle. Mais après, j'ai découvert Casse-noisette à l'occasion de pas mal de spectacles du ballet du Capitole et d'autres, et des grands ballets, puisque c'est à l'affiche des plus grands ballets, aussi bien de l'Opéra de Paris que du Bolshoï, que du Théâtre Mariinsky. Et comme le disait Hubert, l'œuvre sur le plan musical a fait l'objet de suites symphoniques déjà. Et il y a beaucoup d'inventivité, beaucoup de délicatesse. Il y a aussi l'utilisation, par exemple, du célesta dans la danse de la fée dragée. Il y a plein de choses qui sont très, à la fois très raffinées, pleines d'inventions. Et on peut l'écouter sans voir le ballet, mais bien sûr aussi, un ballet est un spectacle. Il a été créé en 1892, je crois, à Saint-Pétersbourg, au Mariinsky. Et la chorégraphie était de Marius Petipa, un Français. Donc c'est une œuvre qui n'a pas quitté l'affiche et qui, je pense, c'était le spectacle idéal pour les fêtes. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut y amener ses enfants sans problème, mais aussi les parents se laissent séduire par le côté fantastique, magique de cette aventure, et dont la musique est vraiment très très belle et que l'on peut écouter aussi sans le ballet.
Puis typiquement tchaïkovskienne, c'est vraiment...
Ah oui, on a la Russie.
L'harmonie un peu post-romantique à la manière russe.
C'est la Russie, la Middle Europe, l'Europe centrale, qui était tellement riche de tout un tas de rythmes, enfin bon... Il y a presque du tzigane par moment. Enfin, c'est extraordinaire. C'est plein d'inventivité.
En même temps,
à
la fin du 19e siècle, il y avait un côté quand même une très grande influence de l'Europe, dans cette Russie de Saint-Pétersbourg notamment. Et que Tchaïkovski, je pense, il y a un compositeur russe, pourrait-on dire, mais pas que ça quand même. Tout le monde connaît Tchaïkovski en France. On ne dit pas c'est de la musique russe. C'est une musique qui est vraiment devenue très, très populaire. Puisqu'en fait, les thèmes de Casse-Noisette ont été utilisés notamment dans.
Au cinéma, beaucoup.
Au cinéma.
Walt Disney,
dans le fameux Fantasia. C'est quelque chose qui a dépassé un cadre.
Ouais, ça a dépassé la musique classique. C'est souvent dans des films. Enfin, c'est une musique reprise très, très souvent. Hein. Mais elle est de grande qualité. C'est là où on voit peut-être la différence entre une musique géniale, beaucoup entendue, on a quand même plaisir à la réentendre. En plus, là, avec un très beau ballet, j'ai vu les maquettes des décors qui sont superbes, les costumes aussi. Je pense que ça va être un très, très beau spectacle. Et la qualité du ballet, qu'Ada Bellarbi a vraiment insufflé quelque chose au ballet. Hein. Je crois que depuis qu'il est là, on sent quelque chose qui est plus peut-être solide, je ne sais pas comment dire. Il y a une solidité et je me réjouis beaucoup. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on avait eu Alice pour les fêtes et là, je crois que vraiment, on va avoir quelque chose de grandiose.
Kader Bellarbi qui signe la chorégraphie et la mise en scène de cette version de Casse-Noisette. Alors, dans Casse-Noisette, il y a beaucoup d'airs célèbres. Est-ce que vous en avez des préférés? Certains que vous avez toujours... énormément de plaisir à entendre.
La danse la fait drager, je ne sais pas si c'est...
Qui joue au piano aussi, beaucoup.
La valse des fleurs, c'est très belle.
Il y a la danse du chocolat aussi, que j'aime beaucoup. Enfin, bon.
Mais il y a les danses, il y a la danse chinoise, la danse arabe, la danse russe, j'en oublie peut-être d'ailleurs. Et puis, il y a la danse des mirlitons.
Ah oui,
la danse des mirlitons. Eh bien, j'ai un extrait de la danse des mirlitons, interprété par l'Orchestre National du Capitole, justement, dirigé par Tougan Sokhev. On va écouter, c'était en concert il y a quelques années à la Lograin. La danse des mirlitons, tirée de Casse-Noisette de Tchaïkovski, interprétée par l'Orchestre National du Capitole, dirigée par Tougan Sokiev. Hubert, vous vouliez dire un mot sur cette interprétation ?
Oui, parce que je pense que je n'étais pas à ce concert-là, mais je l'ai entendu diriger ça, et j'avais été très surpris. Alors, je sais pourquoi vous avez choisi cet extrait. Vous espérez que c'est Sandrine Tilly qui était à la flûte ?
Non, pas forcément.
Non, enfin, vous avez entendu cette qualité des bois, qui est quand
oui,
même la plus belle qualité de l'Orchestre de Toulouse. Hein. C'est les bois, après vous avez les trompettes qui sont rentrées après, enfin, c'est magnifique. Et alors voilà, du grand Tugan, dans le sens où il tient son tempo extrêmement retenu, vous l'aurez remarqué, c'est beaucoup plus lent que la plupart des interprétations, mais il le tient. Et il arrive à ce que, du coup, les musiciens le suivent. On sent une espèce de vie, alors que la pièce est assez légère. C'est pas grand-chose. Hein, c'est des petits accords de flûte, des pizzes. Enfin, ça tient à pas grand-chose. Mais il y a une tension. Et quand il reprend le thème et qu'il fait un ralenti pour retrouver... Il y a quelque chose, là, dans le rubato qui est merveilleux, quoi. C'est ça, une interprétation un peu audacieuse d'un chef-d'œuvre connu par tout le monde.
Alors, on a évoqué tout à l'heure un autre des airs très célèbre de Casse-Noisette, La Valse des Fleurs. On peut pas finir cette émission sans l'écouter. On va écouter un petit extrait de La Valse des Fleurs et on va pas finir l'émission là-dessus, hein, rassurez-vous, c'est pas ce que je voulais dire. C'est une version dirigée par Georg Solti. La célèbre Valse des Fleurs de Casse-Noisette, une version dirigée par Georg Solti, le ballet de Tchaïkovski, donc donné au Théâtre du Capitole jusqu'au 31 décembre, tous les jours à 20h, sauf les 25 et 28 décembre, où il y aura relâche, et sauf les dimanches 24 et 31, où les représentations ont lieu à 15h. Nous allons maintenant retrouver l'Orchestre National du Capitole, qui, comme il est de coutume, va lui aussi donner son concert du Nouvel An, et je devrais même dire ses concerts du Nouvel An, ce qui est pour le moins paradoxal. Les années précédentes, il en avait déjà deux, le 31 décembre le soir et le 1er janvier janvier en fin d'après-midi. Et bien cette année, il a été ajouté un troisième concert le soir du 30 décembre avec Tougan Sokiev à la baguette cette année. Anne-Marie et Hubert, est-ce que vous êtes des habitués du concert du Nouvel An de l'Orchestre National du Capitole ?
Oui, tout à fait, depuis le début, puisque la formule a été rendue possible à Toulouse grâce à Michel Plasson. Je ne me souviens plus tout à fait la date, mais en fait, c'était donc bien avant l'arrivée de Tougan Sokiev. Et Michel Plasson a voulu créer un concert du Nouvel An, un petit peu à l'image de celui de Vienne, même s'il y avait des répertoires assez différents. Il voulait vraiment démarrer l'année dans un climat de fête. Et Tougan Sokiev a largement repris la formule en 2008, alors qu'il débutait à Toulouse. Et depuis, le concert n'a cessé de s'imposer chaque année. Il y avait un concert d'abord.
Puis deux, et maintenant trois. Et complet, il paraît qu'ils sont presque
complet,
tous complets.
Parce qu'en fait, c'est quasiment à Toulouse, en plus, le seul spectacle de fête de la fin de l'année et du début de l'année.
On a Casse-Noisette, là, quand même.
Que les gens, cette année, il y a Casse-Noisette.
En musique, en théâtre.
Mais en musique, ce concert, le jour du premier de l'an, vous avez les gens qui viennent à 18h, parce qu'après avoir fait les fêtes traditionnelles du Nouvel An.
On se lève un peu tard le lendemain.
À 18h, il y a un monde fou, donc il a fallu le doubler. Maintenant, c'est pour trois séances, donc 30 et 31 décembre, ceux qui veulent avoir de la musique avant de faire le réveillon. Donc ça s'est imposé à Toulouse, avec un répertoire qui est de plus en plus diversifié, puisqu'il y a un peu de valse viennoise, mais il y a aussi beaucoup de choses.
On va le regarder le détail.
On va regarder le détail. Tous les ans, il y a des choses différentes, hein, des pot-pourris de musique célèbre, qu'elles soient
françaises. Oui, en général, ce sont quand même plutôt des tubes de la musique classique. Alors Hubert, vous êtes aussi un habitué.
Moi, je l'ai découvert avec Michel Plasson et Felicity Lott. Une année, il y avait Felicity Lott qui était venue. Alors là, je crois quand même que c'était, je m'en rappellerai toujours.
Ça devait être quelque chose, oui.
C'était quelque chose. Et donc après, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir que Tougan Sokiev reprenait le flambeau. Et il y a deux ans, je me rappelle, j'avais pu inviter des amis qui venaient de la France entière pour ce concert. Tout le monde était vraiment emballé par la qualité, la générosité de Tougan Sokiev quand il dirige cette musique. C'est ce que tout à l'heure, je faisais remarquer, c'est de la musique connue. Est facile, mais il fait quelque chose d'autre avec, qui nous rassure, mais qui nous plaît et qui nous surprend. Cette année, je suis désolé, je n'y serai pas, je le regrette beaucoup, mais bon, j'essaie d'y aller chaque fois que je peux.
Alors, faut dire, c'est le retour un peu de Tougan Sokiev à la baguette pour le concert du Nouvel An, parce que les années précédentes, il y avait eu Wayne Marshall,
Wayne Marshall, oui, qui l'a fait, qui l'a aussi animé, parce que la tradition veut que le chef d'orchestre qui dirige ce concert présente certaines œuvres, anime un petit peu, donne un côté festif, qui est très apprécié du public, et on vient là écouter de la musique.
Très élargi,
oui.
Parce qu'avec Wayne Marshall, d'ailleurs, un petit côté peut-être un peu jazzy ou...
Oui, mais en même temps aussi, lui-même, il a parlé. Il a improvisé. Oui, il y avait un côté plus jazzy peut-être. Mais les œuvres, ce sont souvent des tubes, des musiques très diverses. Disons que ce n'est plus du tout le concert, la copie conforme du concert du Nouvel An avec des valses viennoises.
Ah non, c'est beaucoup plus original que Vienne.
C'est beaucoup plus original parce que, il vaut mieux ne pas refaire Vienne. Parce qu'à la longue, en dehors du Philharmonique de Vienne, qui dans ce contexte peut se permettre tous les ans de drainer un public mondial grâce à la Mondiovision, parce que les places pour y assister au Musikverein, qui n'est pas très grand, coûtent une fortune,
hors de prix.
Et donc, c'est quelque chose de très viennois, de très particulier, que les gens peuvent écouter chez eux, et apprécier chez eux. Là, le concert du Nouvel An de l'Orchestre du Capitole, c'est quelque chose de différent et de très agréable.
Oui, puis chaque année, il y a des œuvres. Alors, il y a des œuvres qui peuvent revenir, mais là, c'est extrêmement varié, je l'ai sous les yeux le programme, et encore je suis même pas sûr qu'il soit exhaustif parce qu'il y a peut-être des choses
qui sont ajoutées. Mais souvent il y a des changements de dernière minute plus, en moins, il y a souvent des choses qui changent.
Alors je vous dis, il y a une dizaine d'œuvres, donc la première, je pense que tout le monde connaît, dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine, après il y a Samson et Dalila, Saint-Saëns, l'ouverture de la Pivoleuse de Rossini, encore Rossini, décidément très à l'honneur en cette fin d'année, Strauss tout de même, Rose du Sud, Elgar, Pump and Circumstances. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend forcément lors des concerts du Nouvel An. Encore Tchaïkovski, La Belle au Bois Dormant. Bizet, et quand même, il faut qu'il y ait des Français. La Farandole de l'Arlésienne.
Ah oui, ça c'est festif. Ouais.
Peer Gynt, Edvard Grieg. Et puis, quelle œuvre tous les ans termine le concert du Nouvel An à Vienne, vous savez, c'est laquelle?
La Alsacien.
La marche de Radetzky.
Voilà, et bien là aussi. Alors là, ils ont copié. est-ce que ce sera vraiment ça d'ailleurs qui terminera? Il y aura sans doute des rappels, je ne pense pas que ça va se terminer là-dessus.
Le public va frapper dans les mains sous la direction du chef. C'est un grand moment.
Voilà.
Pas de musique, mais un grand moment festif.
Je me demande, parmi toutes les œuvres que j'ai citées, là, est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous avez déjà entendues à plusieurs reprises jouées par l'Orchestre du Capitole à la Lograin? La Farandole de l'Arlésienne, à l'époque Plasson, c'était joué
beaucoup,
souvent.
Mais les steppes de l'Asie, je les ai entendues.
Oui. Mais même l'Arlésienne, il le donne en bis régulièrement, la farandole de l'Arlésienne. Samson et Dalila aussi, là,
comment ça s'appelle? On avait eu cette avec très belle version à la.
Le passage, comment ça s'appelle déjà?
Mon cœur
le...
se voit à ta voix.
Non, crois, là, non là, c'est le passage orchestral de l'Arlésienne. Ah. C'est
un à la farandole, vous parlez de l'Arlésienne ou de Samson et Dalila?
De Samson et Dalila, c'est là.
Je ne sais pas quel passage
ils vont jouer.
La Bacchanale, voilà.
C'est ça qu'ils vont jouer.
La Bacchanale, voilà. Donc, on les a entendus parfois en bis, parfois en ouverture de... Oui, quelques morceaux, mais enfin, pas tant que ça, quand même.
Tchaïkovski, La Belle au Bois dormant, je pense que ça a été joué assez souvent.
Ouais. Je regrette de ne pas entendre la pivoleuse. J'aimerais bien savoir comment il va s'en sortir de la pivoleuse. Ça va être pas mal.
L'ouverture de la pivoleuse est quelque chose d'extrêmement agréable. Eh bien, puisque vous en parlez, l'ouverture de la pivoleuse, je propose qu'on en écoute une version, pas par l'Orchestre National du Capitole, mais c'est tout de même une version dirigée par Gustavo Dudamel, qui l'an dernier d'ailleurs dirigeait le concert du Nouvel An à Vienne. L'ouverture de la pivoleuse, la Gazza Ladra de Gioachino Rossini. Et puisqu'on en parle de ces ouvertures d'opéra de Rossini, vous savez que le générique de Mélomanie, c'est l'ouverture de l'Italienne à Alger. Il y a beaucoup d'ouvertures célèbres d'opéra de Rossini. Est-ce qu'il y en a une qui a votre préférence par rapport à d'autres?
Ça dépend des jours, mais j'aime beaucoup l'ouverture de Guillaume Tell, donc cette dernière œuvre de Rossini qu'il a fait pour l'Opéra de Paris. Il n'a plus rien composé comme opéra ensuite, en disant voilà, je suis arrivé à faire le super opéra français, et là-dedans il y a une ouverture, parce que justement, l'orchestre à Paris était, je pense, d'un niveau extraordinaire pour oser cette. Vous savez, c'est cette ouverture où il y a le violoncelle, solo qui commence, et il y a les trompettes à la fin. Enfin, c'est extraordinaire, extraordinaire.
Anne-Marie, les ouvertures d'opéra de Rossini.
Ben, écoutez, je ne sais pas pour les ouvertures, mais c'est vrai, je serais assez d'accord pour Guillaume Tell. Guillaume Tell, en fait, opéra que je ne connaissais pas ou très peu, et que j'ai découvert à l'Opéra de Paris au début des années 2000, et qui est un ouvrage qui mérite vraiment d'être... C'était avec Thomas Sampson dans le rôle de Guillaume Tell,
aussi,
à Paris.
C'était une très belle production.
C'était une très belle production, et j'avais découvert vraiment une œuvre qui mérite d'être plus jouée, même si elle est, c'est vrai, difficile.
Quelques petites coupes pour la rendre supportable, hein, parce qu'elle dure 4 heures, je crois, c'est très très long.
Je crois pas qu'on l'ait entendu à Toulouse depuis fort longtemps.
Je ne me souviens pas.
Jouer des tubes de la musique classique pour le concert du Nouvel An, ça vous paraît vraiment légitime? C'est ce qu'il faut faire, compte tenu du public qui est dans la salle, qui n'est peut-être pas le public habituel non plus, hein?
Oui, à condition d'apporter quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut une touche d'interprétation. Et je crois que c'est ça. Et c'est le style. De toute évidence, l'Orchestre du Capitole, c'est chaque fois choisir un chef qui a du style. Et ça a à chaque fois marché, parce qu'il faut un style. Les tubes, d'accord, mais jouer un peu... pour stimuler l'intelligence, quoi.
Oui,
J'ai des belles pièces souvent, hein. C'est pas parce que c'est très connu qu'il faut pas que ce soit joué, évidemment.
Revisiter les tubes de la musique classique, c'est loin d'être indigne, parce que je crois que la musique classique doit se faire entendre, même avec ces tubes qui sont parfois justifiés, parce que finalement, ce sont des œuvres qui parlent aux gens de façon simple et naturelle, directe, et qu'elles méritent d'être connues, et qu'elles sont aussi peut-être une ouverture sur une approche de la musique plus profonde. Mais c'est pas la peine non plus, pour un concert du Nouvel An, d'aller chercher une œuvre complètement abstraite, difficile, pour dire qu'on va sortir des tubes. On peut faire connaître des œuvres peut-être, mais je crois que dans ces moments festifs...
Et puis on a ce rituel du concert à Toulouse, en tout cas comme à beaucoup d'endroits, de l'ouverture, du concerto, de la symphonie. Là, on sort de ça, c'est un rythme différent. C'est une question de rythme, un concert du Nouvel An, vraiment.
Dans les tubes de la musique classique... Si on parle de Bizet, il y a évidemment les grands airs de Carmen, que tout le monde connaît. Carmen qui sera d'ailleurs donnée, au Théâtre du Capitole, début avril, je crois que c'est du 6 au 19 avril, je crois que c'est ça les dates. En attendant, il y a un autre air très célèbre de Bizet, c'est celui de la farandole de l'Arlésienne. J'en propose qu'on en écoute une version dirigée non pas par un Français, mais par Herbert von Karajan à la tête du Berlin Philharmonic Orchestra. La farandole de l'Arlésienne de Georges Bizet, version donc interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan. Et vous me disiez, Herbert, là, il y va fort quand même.
Ben, c'est l'efficacité germanique, hein, mon cher. C'est vraiment un peu roboratif. Hein. C'est bon, c'est puissant, ça avance, c'est la locomotive qui est lancée. Et rien ne... Mais ça ne bouge pas. On peut faire plus souple et plus de rubato là-dedans. Enfin, donc, je connais des choses plus agréables.
Mais peut-être que Tugan Sokiev, justement, vous entendra certainement.
J'attends beaucoup de sa part.
Je pense qu'il va nous faire une interprétation tout à fait spéciale pour ce concert du Nouvel An. Bon, on arrive au terme de cette émission, et comme je le disais, le concert du Nouvel An, ça se termine en tout cas à Vienne par la marche de Radetzky de Johann Strauss, et bien ça se terminera aussi là-dessus à Toulouse, et j'ai une version de l'Orchestre National du Capitole. Alors c'est celle qu'ils avaient donnée, je ne sais pas si certains s'en souviennent, lors des Victoires de la Musique Classique 2016 qui avait eu lieu à la Halle au Grain. Et puis la tradition, lorsqu'on écoute la marche de Radetzky, c'est de taper dans les mains, et vous allez voir là aussi le public tapait dans les mains. Voilà la marche de Radetzky de Johann Strauss, interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Vous les retrouverez pour le concert du Nouvel An que donne l'Orchestre National du Capitole à la Halle au Grain les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier. Un grand merci à vous deux, Anne-Marie Chouchon et Hubert Stocklin, pour votre participation active et ô combien précieuse et éclairée à cette émission. Je vous souhaite ainsi qu'à tous nos auditeurs d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et entre amis. Profitez bien tous de ces moments toujours agréables et n'oubliez pas d'aller au Théâtre du Capitole et à la Halle au Grain pour y voir et y écouter les merveilles dont nous avons parlé au cours de ce numéro. En ce qui concerne le Théâtre du Capitole, je rappelle que Casse-Noisette, le ballet de Tchaïkovski, y est donné jusqu'au dimanche 31 décembre dans la mise en scène et la chorégraphie de Kader Belarbi. Représentation tous les soirs à 20h, sauf les 25 et 28 décembre où il y a relâche. Les dimanches 24 et 31 décembre, les séances ont lieu à 15h. Vous pouvez réserver vos places et vous renseigner sur le site www.théâtreducapitole.fr. Et puis pour le concert du Nouvel An de l'Orchestre du Capitole dirigé par Tougan Sokiev, trois possibilités, les samedis 30 et dimanche 31 décembre à 20h, le lundi 1er janvier à 18h. Réservation et détails du programme sur le site www.onct.toulouse.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry. Ce numéro est réécoutable en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne fin d'année musicale à tous.